L'heure des informations avec vous, Antoine Mercier, bonsoir.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. François Hollande défend son bilan, il ouvre aussi la voie à une nouvelle candidature pour 2017. Il invite par ailleurs Emmanuel Macron à respecter les règles de solidarité du gouvernement sous peine d'éviction. Compte rendu de cette intervention télévisée du chef de l'État avec Stéphane Robert, l'ancien Premier ministre François Fillon estime que François Hollande a perdu la dernière occasion de se montrer à la hauteur de sa fonction. Nous passerons en revue les réactions politiques avec Anne Fauquemberg. Dans sa première déclaration publique depuis sa nomination, Boris Johnson, nouveau ministre des Affaires étrangères britannique, affirme que quitter l'Union européenne, cela ne signifie pas quitter l'Europe. Au contraire, il veut s'en rapprocher. Correspondance à Londres d'Annabelle Grelier. L'Union européenne lance une nouvelle offensive contre Google, qu'elle accuse d'abus de position dominante sur le marché très lucratif de la recherche sur Internet. Précision d'Abdelhak El Idrissi. Et puis, comme tous les jours, la chronique d'Avignon. Ce soir, Joël Gayot nous parle du spectacle du off en forme de seul en scène, Mon amour fou, écrit et interprété par Roxane Kaspersky, auteur et interprète donc du texte au théâtre Artéphile. Dans le grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Eh bien, Antoine, merci. À 18h15, dans le grain à moudre d'été, puisqu'on est le 14 juillet, on parlera patriotisme. Patriotisme, est-ce que c'est devenu tendance? Voilà, c'est la question qu'on va poser.
Dans son interview du 14 juillet, François Hollande a donc posé les bases d'une future campagne présidentielle. Il s'est présenté comme le garant de la cohésion nationale face à plusieurs risques, un risque de dislocation sociale et un risque de dislocation républicaine, selon son expression. Il a par ailleurs défendu son bilan intérieur et répondu aux interrogations du moment. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, à commencer par cette agitation gouvernementale dont on parle depuis plusieurs jours autour de la figure d'Emmanuel Macron, à qui il a rappelé les règles à respecter.
Il y a des règles. C'est la solidarité, c'est l'esprit d'équipe, c'est de défendre le bilan, d'être à plein temps dans sa tâche. Respecter ces règles, c'est rester au gouvernement, ne pas les respecter, c'est ne pas y rester.
Voilà, apparemment c'est clair, mais on ne sait toujours pas si le chef de l'État considère que ces règles ont été ou pas transgressées. Apparemment, elles n'ont pas été transgressées, puisqu'il n'est rien arrivé encore à Emmanuel Macron.
Non, enfin, il est un peu ambigu sur cette question, François Hollande. Il botte en touche, hein, car certes, Emmanuel Macron n'a pas officiellement déclaré sa candidature pour 2017, mais il a dit mardi soir, lors du meeting à la Mutualité, que son mouvement était en marche, que plus personne ne pourrait l'arrêter, et qu'il irait jusqu'à la victoire en 2017. Alors le président peut considérer qu'il n'a pas franchi la ligne, mais bon, on voit qu'il y a de la marge, la ligne on ne sait pas très bien où elle se situe et François Hollande se montre très tolérant vis-à-vis de Macron. En réalité, le président a besoin de le garder au gouvernement, Macron est plus utile ou moins gênant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Alors pour évacuer aussi les polémiques du moment, François Hollande a répondu aux interrogations suscitées par le niveau de dépenses de coiffeur.
Oui, là encore le chef de l'État a botté en touche, sans véritablement répondre à la question et de manière un peu indignée. Il a diminué le budget de l'Élysée, a-t-il déclaré. Il a diminué le nombre de personnels employés et il a diminué son salaire de 30%. Alors qu'on ne vienne pas le chercher là-dessus, bref, circuler, il n'y a rien à voir. On peut se demander s'il a vraiment pris la mesure de l'indignation suscitée par les révélations du Canard Enchaîné. En tout cas, il estime qu'il n'y a pas lieu de lui demander des comptes.
Plus globalement, le chef de l'État défend donc son bilan et quoi que l'on pense des résultats, il s'est dit sûr d'avoir fait ce qu'il convenait de faire.
Oui, François Hollande a remis tout ce qu'il a fait en perspective en expliquant qu'en 2012, il avait hérité d'un pays avec 42 fièvres, avec un chômage qui gonflait de mois en mois et une dette publique qui avait explosé, qu'il a dû dans ces conditions d'abord rétablir la compétitivité des entreprises. Maintenant que c'est fait, elle recommence à embaucher et sa promesse d'inversion de la courbe du chômage, eh bien, elle va se réaliser.
Nous aurons une inversion de la courbe de chômage à la fin de l'année, mais un chômage qui restera encore trop élevé. Et ça veut dire qu'il va falloir continuer la politique que j'ai engagée, il va falloir la poursuivre.
Vous voyez le message. Certes, il assume que les résultats de sa politique ne soient pas encore tout à fait là, que son bilan est encore un peu faiblard, mais il nous dit ça va venir, ça vient, c'est en train d'arriver. Et si on veut véritablement récolter les fruits de ce qu'il a semé, alors il va falloir poursuivre après 2017 la politique qu'il a engagée. On voit là qu'il est en train de préparer et de nous énoncer les perspectives de sa future candidature à la présidentielle.
Effectivement, il a tracé ses grandes lignes d'une éventuelle campagne présidentielle. La France est forte, a-t-il dit, mais la maison France est fragile. Elle est menacée d'éclatement social et républicain, et pour l'éviter, on comprenait très bien à l'écouter que dans son esprit, une nouvelle candidature Hollande pourrait bien s'imposer en 2017.
Oui, l'essentiel du propos de François Hollande sur son éventuelle future candidature en 2017 n'est pas de dire que ce serait bien de le réélire pour poursuivre la même politique afin de tirer les pleins bénéfices de l'action de son premier quinquennat. Non, l'essentiel de son propos est de nous dire que sa candidature ne sera pas seulement souhaitable, mais qu'elle sera nécessaire, car il est le seul rempart face à ce qui menace la France.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous menace? proposition de dislocation républicaine, de séparation, d'opposition des Français entre eux.
Vous parlez du Front National.
Front National, oui, vous l'avez reconnu. Non, je dois protéger la Maison France. La Maison France, elle est fragile. Elle peut à tout moment, non pas se lézarder, mais se séparer. Ce que je pense, c'est que l'enjeu de 2017, c'est un enjeu beaucoup plus important que celui de 2012. En 2012, il fallait que le pays se redresse. En 2017, il va falloir que le pays tienne debout, parce que ce qui est en cause en ce moment même, dans le monde, je parle du monde occidental, ce qui nous menace, c'est une atteinte grave à la démocratie. C'est la démocratie elle-même.
La démocratie menacée, François Hollande, candidat par devoir. On a là déjà la tonalité de ce que devrait nous dire le chef de l'État en décembre prochain. Il sera candidat. Au vu de ce qu'il a dit à l'occasion de ce discours du 14 juillet, il ne faut plus en douter. Et on peut voir d'ores et déjà, à travers les arguments avancés, la force de ce qu'est un président candidat. Il se présente, il se représente en tant que chef de l'État, garant de l'unité et de la cohésion de la nation. Il utilisera à plein ce statut, la puissance que lui confère cette position. C'est pour ça que même s'il y a une primaire à gauche, même s'il est à 13% aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, François Hollande reste optimiste. En tout cas, il n'a pas dit son dernier mot.
Stéphane Robert, merci beaucoup. On dit encore un mot des réactions dans la classe politique, Anne Fauquemberg.
Comme en écho avec la nouvelle posture de François Hollande qui se présente en gardien de la Maison France, le Parti Socialiste renchérit dans un communiqué face à celles et ceux qui exacerbent les oppositions, les fragmentations et les séparations. Il nous faut agir pour renforcer la cohésion sociale, territoriale et culturelle de notre société. C'est ce message qu'a porté le président de la République. À droite, on dénonce au contraire une démonstration d'autosatisfaction d'un chef de l'État totalement déconnecté de la réalité, dit le candidat à la primaire de Les Républicains, François Fillon. Sur quoi le président du Sénat, Bruno Retailleux, ajoute, François Hollande n'a qu'un argument pour expliquer son échec, c'est pas moi, c'est les autres. À l'extrême droite, Marine Le Pen y va aussi de son commentaire, dénonçant la bataille d'ego qui agite le gouvernement, référence évidemment au recadrage destiné au ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Enfin, au parti de gauche, Éric Coquerel et Daniel Simonet se désolent que François Hollande ait encore expliqué aux Français que le chômage allait baisser, alors que plus personne ne croit à la méthode Coué. Quant à Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, il n'y va pas par quatre chemins. Droit de réponse au président Hollande par bulletin de vote au premier tour en 2017. Rentre chez toi et laisse-nous faire.
Anne Fauquemberg, merci beaucoup. Sur le Brexit encore, le chef de l'État a rappelé sa position. Plus tôt, la première ministre britannique engagera la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, meilleure sera la relation future entre l'Europe et le Royaume-Uni et meilleure sera notre propre situation. Le Royaume-Uni ne peut pas avoir dehors ce qu'il avait dedans. C'est fini, a ajouté François Hollande. Et puis, le chef de l'État juge aussi le recrutement annoncé de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne par la banque d'affaires américaine Goldman Sachs, comme moralement inacceptable. Voilà donc pour un résumé de ses déclarations de tout à l'heure. En pendant ce temps, la nouvelle première ministre britannique, donc Theresa May, poursuit la composition de son gouvernement. Elle a mis aux manettes de son équipe des partisans résolus du Brexit, dont son principal promoteur Boris Johnson. Dans sa première déclaration publique d'ailleurs, depuis sa nomination, le nouveau ministre des Affaires étrangères affirme que quitter l'Union européenne, ça ne signifie pas quitter l'Europe. Au contraire, a-t-il dit, nos relations avec l'Europe vont s'intensifier. Le nouveau chef de la diplomatie ajoute qu'il va s'atteler à remodeler le profil global de la Grande-Bretagne, de son identité de grand acteur mondial. Boris Johnson va rencontrer ses collègues européens pour la première fois. Ce sera lundi prochain à Bruxelles. Mais il ne pilotera pas toutefois pas ses négociations avec l'Union pour sortir de l'euro. C'est un rôle qui va incomber à l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, David Davis, dont Annabelle Grelier nous dresse le portrait.
À 67 ans, David Davis est un vieux de la vieille chez les Tories. Il connaît bien les questions européennes. De 94 à 97, il a travaillé au Foreign Office du gouvernement de John Major, où il était chargé précisément des négociations avec l'Europe. Il rappelait récemment dans la presse le qualificatif de charmant salaud dont on l'avait affublé à Bruxelles. Le mot avait été trouvé par un ministre des Affaires étrangères portugais qui l'avait aussi qualifié d'as de l'obstruction constructive. Dans une autre interview, il assurait que le premier effet de Londres pour emporter un bon accord devrait être Berlin et non Bruxelles. Car, poursuivait-il, les groupes automobiles allemands ne voudraient pas risquer le retour de barrières douanières sur leurs exportations vers le Royaume-Uni. Et en Europe, ce qu'un chancelier allemand veut, il l'obtient en général. Fort de ses convictions et de sa ténacité, Theresa May pourra compter sur David Davis pour négocier pied à pied le meilleur deal pour le Royaume-Uni qu'elle a promis aux Britanniques.
À quelques jours des conventions démocrates et républicaines aux États-Unis, remontée de Donald Trump dans les sondages, le candidat républicain fait maintenant jeu égal avec Hillary Clinton. Il recueille 40% des voix, autant donc que la candidate démocrate, alors que 6 points les séparaient le mois dernier. Donald Trump dévoilera demain le nom de son colistier. L'Union européenne lance une nouvelle offensive contre Google, qu'elle accuse d'abus de position dominante sur le marché très lucratif de la recherche sur Internet. Ses résultats de recherche favoriseraient son propre service de comparaison de prix au détriment de ceux de ses rivaux. Et c'est le troisième fonds qui est ouvert ainsi par les autorités européennes contre Google dans leur lutte antitrust. Abdellah Khalid Rissi.
Concrètement, la Commission vise aujourd'hui le secteur de l'intermédiation publicitaire, car Google est également une sorte de régie publicitaire qui met en relation les entreprises ayant un produit à vendre avec les sites internet sur lesquels se trouvent les encarts. Selon la Commission, Google représente 80% du marché et rendrait impossible pour les sites web l'affichage de publicité émanant de concurrents du géant américain. L'an passé déjà, la Commission européenne avait lancé une procédure contre les pratiques de Google sur son moteur de recherche. Elle lui reproche de mettre en haut de page son propre comparateur de prix et de reléguer ses concurrents. Enfin, en avril 2016, la même commission pointait le fait que sur Android, le système d'exploitation de Google, l'entreprise impose l'installation par défaut de ses propres applications. En tout, ce sont donc 3 procédures pour abus de position dominante qui sont ouvertes. Et c'est du jamais vu, et l'amende peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires global pour Google dans les 3 procédures.
Merci Abdellah El Idrissi. Non, c'est non. À Pamplune, en Espagne, les fêtes de la Saint-Firmin, qui rassemblent chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier, ont été marquées par une multiplication de plaintes pour agressions sexuelles, notamment celle d'une jeune Française pour viol, des plaintes qui se sont traduites par une dizaine d'arrestations, mais aussi par une manifestation d'ampleur et des milliers de personnes qui défilaient dans les rues en signe de protestation. Ce qui n'est pas sans rappeler, dans une moindre mesure, les agressions subies par plus d'un millier de femmes durant la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne, en Allemagne. Florence Turm.
Plusieurs milliers de personnes vêtues de rouge et blanc, la tenue traditionnelle des fêtes, et brandissant une main en carton avec l'inscription « Non, c'est non ». C'est effectivement une première manifestation de masse pour protester contre des comportements délictuels que les mouvements féministes ont été longtemps seuls à dénoncer. Cette année pourtant, la municipalité de Pamplune avait développé une campagne pour promouvoir des fêtes sûres pour les femmes. Ni l'usage ni l'abus d'alcool et de drogue ne peuvent justifier une agression, avait insisté le maire, déclarant ressentir beaucoup de rage face à ces événements. Le no espagnol fait donc aujourd'hui écho au nein allemand après les agressions de Cologne en janvier dernier. L'Allemagne, qui a d'ailleurs commencé à bouleverser sa définition du viol, le refus de la victime sera désormais pris en compte, alors que le texte précédent s'appuyait uniquement sur la violence ou la menace. C'est d'ailleurs encore le cas en Espagne. Prise de conscience législative portée par un mouvement de société, une parole qui se libère. En France, l'omerta qui protégeait la classe politique a volé en éclats avec l'affaire Baupin. Les universités québécoises, elles, ont lancé au printemps dernier une campagne sans équivoque. Sans oui, c'est non, destinée à prévenir le harcèlement et les agressions sexuelles. Mais ce sont les campus américains qui vont le plus loin encore que le refus explicite. 3 États ont adopté des lois imposant aux universités d'adhérer au principe du consentement affirmatif. Une application Yes to Sex a même été créée, permettant d'enregistrer avant un rapport sexuel le consentement des partenaires.
Voilà qui est clair. Florence Turm, merci. La chronique d'Avignon pour terminer cette édition ce soir. Incursion du côté du off avec un spectacle en forme de seul en scène, genre très prisé des festivaliers car il leur permet d'être au plus près des acteurs dans une étroite proximité. Donc avec Mon amour fou, Roxane Kaspersky, auteur et interprète du texte, offre aux spectateurs d'Avignon une heure de spectacle que vous avez trouvé, Joël Gaillot, d'une rare intensité.
Elle était déjà présente à Avignon l'été dernier et le public a tellement aimé son spectacle qu'elle est revenue cette année. Roxane Kaspersky engage beaucoup d'elle-même dans ce monologue qu'elle a écrit et qu'elle interprète sous le regard avisé de sa complice, la metteur en scène Elsa Grana. Mon amour fou est, comme l'indique le titre et plus encore, l'histoire d'un amour aux prises avec la folie. Compagne d'un homme maniaco-dépressif, l'héroïne y fait le récit de la chute de son amant dans les méandres d'une démence qui surgit quand on ne l'attend pas. Une démence qui sait, avec une rare perversité, rendre l'existence plus belle, plus éclatante, plus lumineuse. L'homme est effectivement terriblement vivant. Le suivre dans les rues de Paris ou l'accompagner au bout du monde, c'est signer pour l'exaltation, la fougue, l'inouï qui éclate au cœur de la grisaille. Mais c'est aussi s'exposer à la brutale dégringolade lorsque la maladie surgit telle qu'elle est réellement sournoise, implacable, dévorant tout sur son passage. Face à nous, sur une scène jonchée de papier, drapée dans une robe de velours, la femme qui croyait sauver son amour et se pensait à ses côtés indestructibles fait l'amère expérience des illusions perdues. La vérité a un goût âcre, le goût de la lucidité, le goût de la survie. Roxane Kaspersky s'engage dans ce spectacle avec une urgence de dire qui saisit le public. C'est du théâtre, bien sûr, mais du théâtre qui vous passe véritablement par le corps.
Merci Joël Gaillot, à demain, Mon amour fou, donc au théâtre Artefil, 12h35 jusqu'au 30 juillet. Je vous disais tout à l'heure qu'on devait connaître le nom du colissier de Donald Trump. Demain, eh bien, Reuters, l'agence Reuters, l'annonce dès ce soir, Donald Trump choisit le gouverneur de l'Indiana, Mike Pence, comme colistier pour la présidentielle, en attendant donc la convention de la semaine prochaine. La météo, pour clore ce journal, retour des éclaircies, le soleil devrait s'imposer demain sur la plupart des régions. Les températures resteront fraîches pour la saison, du moins le matin, de 8 à 11 en général, 12-14 sur la côte atlantique, 14 à 19 sur le sud-est. Édition réalisée avec Emmanuel Faucillon, le prochain journal est à 22h avec Stanislas Vazak.